Bien, alors nous sommes de retour avec Jean-François Gay, c'est la chronique Prendre la route. Alors, après avoir parlé de pneus sous le signe de la prudence, nous allons parler maintenant de quelques essais routiers. Alors Jean-François, d'abord, tu voulais nous parler de la Jeep Gladiator.
Oui, c'est un retour pour le Gladiator, puis je vais juste faire une petite parenthèse, terminer ces pneus toutes conditions climatiques. Moi, je vous dirais, là, les gens qui ont des gros véhicules, je pense à des camionnettes F-150, des camionnettes commerciales comme le F-250, le Ram HD 2500, etc. Ces gens-là peuvent, je pense, regarder sans peine. C'est un bon coup pour eux autres là, d'installer des pneus toutes conditions climatiques qu'ils vont pouvoir garder 12 mois par année. Par contre, si vous avez une petite voiture, un petit VUS, puis vous faites beaucoup de kilométrage par année, je pense, allez-y avec des bons pneus d'hiver. Ça, c'est ma première recommandation, Jacques, parce que toute condition climatique, là, c'est des gens, je pense, qui font un petit peu de kilométrage au centre-ville, qui sortent pas beaucoup. Ça, c'est correct. Mais cela dit, là, c'est pas conseillé pour les petits véhicules. Ouais.
Et voilà. Parfait. Excellent. Merci. La Jeep. Ou le Jeep, puisqu'on dit le Jeep. Le
ben,
Jeep.
C'est une camionnette, hein. On pourrait dire le Jeep. Mais c'est le Jeep, on va dire le Jeep Gladiator. C'est une camionnette de taille intermédiaire. C'est un modèle 2020. C'est un retour de Jeep. Là. Ça faisait un petit bout de temps que Jeep nous avait pas offert une camionnette. Le Gladiator, par contre, c'est pas un nouveau nom chez Jeep. C'est un nom-là qui avait été utilisé à l'époque, là, dans les années 60, je pense, de 1963 à 1971. Il y avait une camionnette qui s'appelait comme ça, qui portait ce nom-là. Du côté des rivaux du Gladiator, pour situer le véhicule, bien, vous avez le Chevrolet Colorado, le Ford Ranger, le nouveau Ford Ranger, GMC Canyon, Honda Ridgeline, Nissan Frontier, puis le Toyota Tacoma. On s'entend que par rapport à ces rivaux, bien, c'est la seule camionnette cabriolet là, de l'industrie. Il fait une époque. Pas, tu te rappelles, il y a plusieurs années, il y a peut-être deux décennies, on a eu, Dodge avait eu un Dakota cabriolet. Hein? Mais là, en parlant du Dakota, il y a des nouvelles, il y a des rumeurs qui disent que ce véhicule-là, cette camionnette-là, va revenir sur le marché en 2022. D'ici là, le Rubicon, ben, c'est sûr, c'est un modèle cabriolet, on va oublier ça parce que là, il neige aujourd'hui. Mais c'est la même charpente, c'est la même châssis que le Wrangler Unlimited. Par contre, l'empattement, ça, c'est la distance entre les roues avant et les roues arrière. C'est 48 cm plus long. Donc, on s'entend que le confort est au rendez-vous. C'est un véhicule qui roule mieux, qui est plus confortable, qui a une meilleure tenue de route que le Wrangler deux portes et ou encore le Wrangler Unlimited à quatre portes. Au niveau de la benne en arrière, au niveau de la boîte, les gens se demandent c'est quoi la longueur de la boîte? C'est 5 pieds. Donc, c'est une boîte qui est quand même assez courte. Par contre, c'est une boîte qui est comparable, si on veut, au Ranger, aux Frontières, au Ridgeline. Si on veut comparer cette boîte-là, par contre, avec un F-150, ou je sais pas moi, F-150 à boîte courte, ce qui surprend du Gladiator, c'est la profondeur de la boîte. La boîte est vraiment pas profonde. Comparativement, là, si vous cherchez la boîte la plus profonde de l'industrie, il faut regarder du côté de GM. Chevrolet Silverado, GMC Sierra, la nouvelle génération, les boîtes, la benne en arrière, la boîte est très profonde. Cela dit, la boîte, même si la boîte n'est pas profonde, mais ça n'empêche pas qu'on peut quand même y mettre un petit VTT. On peut mettre aussi, je ne sais pas, moi, un motocross. On peut transporter à la limite une motoneige. Ça, je ne suis pas sûr. Même si le hayon arrière est ouvert, ça serait peut-être un peu long, mais ça serait à vérifier, dépendamment du modèle de motoneige. On peut embarquer une feuille de contreplaqué, je pense à une feuille 4x8, ça n'a pas de problème, ça peut transporter ça. Ce qui est intéressant, Jacques, de ce véhicule-là, par rapport à ses rivaux, c'est sûr que c'est un 4x4 hors du commun, dans le sens que au niveau de la... Tu peux, sans dire que tu peux grimper aux arbres, là, mais tu peux grimper les côtes. Tu peux faire du hors-route extrême. Il faut vraiment regarder la configuration de ce véhicule-là. Si vous en apercevez un sur la route, vous remarquerez comment les roues avant sont avancées. Vous avez les grosses roues à l'avant, puis vous avez le pare-choc là, pratiquement au-dessus des roues. Ça veut dire que quand vous voulez, admettons, grimper une côte, ou vous voulez grimper, moi, je sais pas, là, un chemin rocailleux qui est très abrupt, Ça, ça veut dire que vous allez pouvoir monter sans que le pare-choc avant là, accroche, on veut, si on peut s'exprimer ainsi. Par contre, à l'arrière, ce qui est disproportionné, c'est le porte-à-faux arrière. Si on regarde la longueur de la boîte, après l'essieu arrière, là, c'est un petit peu trop long, mais il n'y avait pas le choix là, pour avoir quand même une boîte de 5 pieds. Au niveau du design, c'est un peu bizarre. Au niveau, tu sais, tu regardes ça, tu dis « Oh, c'est disproportionné ». Mais ça le dit, il n'y avait pas le choix. Par contre, je vous dirais, si vous faites du hors-route, peut-être que le pare-choc arrière, la partie arrière pourrait peut-être là, accrocher au sol. Là. Ouais.
Mais c'est un modèle quand même. Pardon, je viens de voir la photo.
Ouais.
C'est spécial quand même. Ça me rappelle nos jouets d'enfants. Oui, exactement. Un peu, ouais. Mais c'est vrai que la boîte en arrière est pas très grande.
Elle n'est pas très grande. Et les gens qui se posent la question, peux-tu. Tu sais, je sais pas, quelqu'un qui travaille dans la construction, il se dit, bah, ben moi, au lieu de m'acheter une camionnette pleine grandeur, je vais acheter ça. Je peux tirer une remorque d'un poids de combien?
Bon. Moi, je ne suis pas certain que chez les entrepreneurs, ça va devenir un véhicule populaire.
Non, mais.
Pas sûr de ça.
Ça pourrait tenter peut-être certaines personnes, mais en tout cas, cela dit, on peut tracter 5000 livres avec un rapport de pont de 4,10. Et si vous allez avec un rapport de pont de 3,73, ça va être aux alentours de 5000 livres. Mais avec un 4,10, c'est sûr que ça va être de la force. Par contre, la consommation va augmenter beaucoup. Au niveau de la motorisation, V6, 3,6 litres. Ça développe 285 chevaux, 260 livres-pieds de couple, boîte automatique à 8 rapports. Hein. Il fait une époque où les boîtes automatiques chez Jeep, c'était seulement des 4 vitesses. Donc là, c'est 8 rapports. Puis la capacité pour mettre dans la boîte, là, vous pouvez mettre jusqu'à 1000, dépendamment des options puis du modèle, vous pouvez mettre jusqu'à 1700 livres de poids dans la benne arrière. C'est quand même beaucoup. Ouais. Mais c'est moins qu'une camionnette pleine grandeur. Puis où ça fait mal, Jacques, c'est le prix.
C'est pas donné.
Ah! Je m'attendais à un prix plus abordable que ça. Vous avez trois versions. Vous avez la version Sport S, la version Overland, la version Rubicon. La version Rubicon, c'est une version qui est mieux adaptée pour faire du hors-route et beaucoup plus chère. Ça commence, Jacques, à 47 000 $
Quand même.
Jusqu'à 54 000 Aux États-Unis, ils ont la version sport. Ils ont une version d'entrée de gamme, meilleur marché que chez nous. Il faut juste espérer que Jeep nous l'offre. Ça pourrait réduire là, peut-être là, de 3-4 000 $ au niveau du prix du modèle d'entrée de gamme.
Ouais. Parfait. L'intérieur, pas mal quand même, un peu sur le carré. C'est fait un peu carré. Hein?
Très carré. Pare-brise carré. En passant le pare-brise, hein, en été, tu peux rabattre le pare-brise.
Ah.
Tu peux enlever les portières.
Ah bon?
Même, il fait une époque où il y avait des policiers qui donnaient des contraventions aux propriétaires de Jeep. Qui enlevaient leur portière. Par contre, moi, je vous dirais que si jamais vous avez éventuellement des contraventions comme ça, vous pouvez les contester parce que c'est un véhicule qui n'a pas été modifié pour ça. C'est un véhicule qui vient de Syrie comme ça. Donc, en théorie, là, vous avez une bonne défense.
Parfait. Alors, on va se garder un petit peu de temps maintenant pour parler de la Hyundai Elantra GT. Là, on s'entend que c'est une voiture qui est beaucoup plus abordable. Mais c'est pas le même genre.
Pas le même genre. C'est une petite voiture, 5 portes, une voiture à haillons. Quand on dit 5 portes, c'est une voiture à haillons. Moi, je te dirais, j'ai été très impressionné par cette voiture-là. C'est un véhicule, on parlait de prix tantôt, c'est un véhicule qui commence à 20 700 $ c'est pas donné parce que l'Elantra 4 portes, la fameuse berline, là, qui est quand même une des voitures les plus vendues. Parce que tu sais, la voiture la plus vendue au Québec en 2018, je n'ai pas encore les chiffres 2019 final, même si on est rendu au mois de novembre, c'était la Honda Civic. Et troisième position, Toyota Corolla. Troisième position, la Hyundai Elantra. Puis là, Corolla puis Elantra, c'était pratiquement nez à nez. Je pense qu'il y avait seulement 200 exemplaires de différence entre les deux, à 16 000 copies, si on veut, 16 200. Et du côté de la Civic, on parle de 19 400 copies exemplaires. Cela dit, l'Elantra GT, parce que quand c'est la version 5 portes, on dit GT pour la différencier de la berline qui s'appelle tout simplement Elantra. Vous avez deux moteurs. Vous avez la possibilité d'opter. Le modèle de base, c'est un 2 litres, 4 cylindres atmosphériques, 161 chevaux. Pour ma part, moi, j'ai essayé la version, on l'appelle... La version GT Line, moteur 4 cylindres, 1,6 litres turbo, qui développe 201 chevaux. Vous avez le choix entre la boîte manuelle à 6 vitesses ou une boîte à 7 vitesses à double embrayage, comme Volkswagen, parce que ça devient comme une rivale de la Golf GTI.
Mm-hmm.
Par contre, c'est moins cher. C'est à peu près, je te dirais, 7 à 8, 9 000 $ de moins qu'une GTI. Non, je vais reprendre mes propos. Je te dirais 5 000 $ de moins qu'une GTI. C'est sûr qu'avec les options, là, l'écart peut se...
rétrécir.
C'est, pas se rétrécir, mais s'étirer, si on veut.
Ça, ah, s'étirer, au contraire.
Ça se dit pas, s'étirer, là, mais il va y avoir un écart plus important. Mais c'est une voiture que j'ai bien appréciée. Les rivales de cette voiture-là sont quoi? Ce sont lesquelles? Vous avez la Honda Civic Aion, Kia Forte 5, Mazda 3 Sport, Toyota Corolla Hatchback, Volkswagen Golf. Moi, ce que j'ai bien aimé de cette voiture-là par rapport à la génération précédente, c'est la finition autant extérieure, si on regarde là, la qualité d'assemblage de la carrosserie, si on regarde aussi la finition intérieure, aussi l'aménagement intérieur, la façon que les commandes sont disposées, Jacques, c'est quand même bien.
Oui.
Et c'est des sièges aussi qui tiennent bien en place. Mais j'ai bien aimé le 4 cylindres, le 1,6 litres. Là. C'est un moteur qui est assez linéaire, c'est-à-dire que les poussées là, d'accélérer. Quand tu accélères, c'est de façon rectiligne. C'est souple au niveau des accélérations. Mmh. Puis la boîte automatique à double embrayage, moi, je trouve qu'elle fait un sacré bon travail. Du côté, peut-être, là, des petites lacunes de ce véhicule-là, on pourrait penser à quoi? On pourrait penser...
Charge de lacunes, il n'y en a peut-être pas.
Boîte manuelle, un petit peu ordinaire au niveau de la précision.
Parce que ça se vend moins qu'avant, des boîtes manuelles,
Ça se vend moins qu'avant. Donc, allez-y avec la boîte automatique. Je vous dirais aussi là, la valeur de revente. Valeur de revente, malheureusement, que ce soit une Kia ou une Hyundai, c'est sûr que vous n'aurez pas à avoir une valeur de revente.
C'est pas comme Toyota.
Pas comme Toyota ou Volkswagen, par exemple.
Je pense j'avoue qu'au niveau du design, c'est un beau véhicule quand même.
Très beau véhicule.
Tu as raison, il est beau et à l'extérieur et à l'intérieur.
J'ai bien aimé les.
C'est comme toi, tu es d'une beauté intérieure.
Oui.
Oui. On va. Ben, c'est moi aussi.
À défaut d'autre chose.
Ben oui,
faut bien avoir des bons côtés.
Pas tout avoir d'envie.
Exactement.
On va faire une pause. Si vous avez des questions pour Jean-François, il sera là après la pause pour y répondre. Alors, n'hésitez pas à lui téléphoner.